Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'After Coupe du Monde, à écouter sur toutes les plateformes, sur l'appli RMC, à regarder également sur YouTube et After Foot Télé, RMC radio officielle de la Coupe du Monde du 11 juin au 19 juillet. Tous les matchs de la compétition à suivre, c'est sur RMC que ça se passe. Pour patienter, RMC vous propose de découvrir les 48 équipes et dans cet épisode, on part à la découverte de l'un des petits poussés de cette édition, la Nouvelle-Zélande. After Coupe du Monde, c'est parti.
RMC After Coupe du Monde, les 48 équipes.
Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir un éminent spécialiste du football océanien, Antoine Blanchet-Quérin. Salut Antoine.
Bonjour à tous, bonjour Julien, merci pour l'invitation.
Eh ben merci d'être avec nous dans cette After Coupe du Monde. Tu suis le football australien et néo-zélandais pour l'excellent site Lucarne Opposé. Juste petite question pour démarrer, comment devient-on spécialiste du football néo-z? Qu'est-ce qui t'a poussé à regarder de ce côté du globe?
Ben, je remercie mon meilleur ami Alexandre qui était fan de l'ancien Kiwi Messi Marco Rojas dans nos années lycée il y a plus de 11 ans. Et après, j'ai commencé à suivre un peu de mon côté, j'ai commencé à écrire pour Lucarne Opposé et 12 ans plus tard, je suis là avec vous pour parler de cette jolie sélection.
Alors avant de rentrer dans le détail, on va préciser que la Nouvelle-Zélande est l'équipe la moins bien classée au ranking FIFA des 48 nations. La Nouvelle-Zélande est 85e, c'est vraiment l'un des petits poussés. Elle reste néanmoins la nation phare de son continent avec 6 coupes d'Océanie au palmarès, la dernière en 2024. La Nouvelle-Zélande sera le seul représentant océanien et ce sera seulement sa troisième participation, Antoine, à la Coupe du Monde. La première avait eu lieu en 1982 où les All Whites, ou les Kiwis comme on les appelle, avaient perdu leurs 3 matchs. En revanche, on va reparler de la dernière participation, 2010, Afrique du Sud, qui avait pas mal marqué les esprits, Antoine, parce que la Nouvelle-Zélande avait terminé invaincue.
Oui, c'est ça, terminé invaincu, donc, et surtout contre l'Italie, championne sortante. Il y avait eu 1-1 contre l'Italie et ils avaient ouvert le score. Mais c'est surtout le premier but de la Nouvelle-Zélande au Mondial de Winston Reid, qui a marqué à la 93e minute contre la Slovaquie, qui avait été... Vraiment l'apothéose en fait pour une si petite équipe qui avait réussi à se qualifier contre Bahreïn de marquer au Mondial et contre une top équipe européenne.
Ça reste un bon souvenir ça pour les Néo-Zélandais où ils en étaient ressortis frustrés. C'est quand même particulier de participer à une Coupe du Monde, de faire 3 nuls, d'être invaincu et de sortir en phase de poule. C'est la seule équipe invaincue de cette édition 2010.
Ben oui, c'est un peu ça, c'est qu'ils se sont restés invaincus, c'est impossible de croire ça vu l'épaisseur du groupe et leur inexpérience au Mondial, mais ils ont nourri un peu de frustration, mais en même temps ils étaient tellement en apothéose qu'ils étaient heureux et ils espèrent que la nouvelle génération va pouvoir les rendre aussi heureux que cette ancienne génération il y a 16 ans qui a pu réaliser cet exploit.
Alors comment la Nouvelle-Zélande s'est-elle qualifiée? Le parcours en qualif des All Whites, finalement qualification assez tranquille pour la Nouvelle-Zélande. 5 matchs, 5 victoires, 29 buts inscrits, 1 encaissé. La Nouvelle-Zélande a évité les barrages intercontinentaux en battant la Nouvelle-Calédonie 3-0 lors de la finale de la zone Océanie. C'est un parcours finalement en éliminatoire assez simple parce qu'on l'a dit, la Nouvelle-Zélande est quand même l'équipe phare du continent océanien. Et puis il y a eu un changement de format également.
Alors le changement de format est ultra profitable pour la Nouvelle-Zélande parce qu'elle est quasiment assurée tous les 4 ans d'aller au Mondial puisqu'elle, comme c'était précisé juste avant, elle a battu facilement la Nouvelle-Calédonie 3-0 et avant il y a eu des victoires fleuves 8-1, 8-0 contre les Samoa ou le Vanuatu. Mais voilà, c'est l'ogre de l'Océanie, ça gagne tout, c'est l'unique pays qui est vraiment professionnel dans le football. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours le côté regarder la Nouvelle-Zélande en Océanie et regarder la Nouvelle-Zélande dans les matchs amicaux. Et c'est parfois deux visages. Et c'est pour ça qu'il est important de bien regarder ces deux faces de la même pièce de cette sélection nationale.
Alors on va maintenant parler plus en détail de cette équipe, force, faiblesse, joueurs à suivre. Et on va démarrer par le sélectionneur Darren Bazoli, anglais de 53 ans qui a fait toute sa carrière en Angleterre et puis qui l'a terminé en Nouvelle-Zélande. Il est là-bas depuis 20 ans, il a fait toutes les catégories d'âge avec la sélection des All Whites. Parle-nous un petit peu de cet homme, de son style de jeu, de son management.
Alors, il est anglais, il est arrivé en Nouvelle-Zélande, il n'a jamais quitté, il est néo-zélandais depuis 2015 officiellement. Il dit souvent qu'il a une énorme fierté de représenter cette nation ou qu'il a suivi des étapes jeunes jusqu'aujourd'hui les sélections nationales. C'est décrit comme un manager qui est pragmatique, posé, il mise sur la cohésion de groupe. Et en fait, lui, son objectif, c'est qu'il faut se rendre compte que la Nouvelle-Zélande, c'est loin par rapport au football européen. Et son objectif, c'est vraiment de combler l'écart entre la position géographique de ses joueurs, entre ceux qui jouent en Australie, ceux qui jouent en Europe, ceux qui jouent aux États-Unis, et d'essayer de créer une cohésion de groupe. Et on peut avoir, sur la partie comment il appréhende, il a une façon de faire très offensive en Océanie et une façon beaucoup plus défensive de conservation.
C'est ce que j'allais te demander. C'est style, plutôt moderne ou justement lorsque l'écart et le niveau devient plus important pour la Nouvelle-Zélande, on revient peut-être à quelque chose d'un peu plus défensif, d'un peu plus anglo-saxon.
Oui, c'est aussi. Ouais, c'est clairement ça, c'est que faut pas s'attendre à ce que la Nouvelle-Zélande puisse être cette nation clairement tournée vers la possession. Darren a les capacités de le faire en Océanie, mais par exemple sur les derniers matchs amicaux, on voit bien que c'est très difficile d'aller marquer des buts. C'est vraiment un gros problème qu'a la Nouvelle-Zélande, c'est d'aller marquer le fameux but. Ça marque très peu en match amicaux, mais ça marque énormément en Océanie, pardon. Et c'est tout le travail qui va devoir être fait, mais on va avoir ce côté plutôt assise défensive, de bien défendre pour essayer d'aller loin pour ce mondial.
Alors, les joueurs à suivre de cette Nouvelle-Zélande, de cette équipe néo-zélandaise, on en parle tout de suite, c'est tout de suite dans l'After Coupe du Monde. L'After Coupe du Monde spécial Nouvelle-Zélande avec Antoine Blanchet-Quérin du site Lucarne Opposée. On va maintenant évoquer, Antoine, les joueurs clés de cette sélection en commençant, je ne pense pas me tromper, par sa star incontestée. Le capitaine, c'est l'avant-centre. Pour ceux qui suivent la Première Ligue, ils le connaissent, c'est Chris Wood, 34 ans. Il évolue à Nottingham Forest. C'est une machine à but, 276 matchs en PL, 92 buts, 20 buts notamment la saison passée. Je ne pense pas me tromper en disant que c'est l'arme principale des All Whites et celui sur lequel finalement on base un petit peu la structure de jeu.
C'est la pièce manquante, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a été blessé sur les matchs amicaux, c'est lui qui manque et c'est l'expérience qui va devoir être primordiale pour ce mondial puisque il y a besoin de buts et c'est le seul qui a cette capacité à aller marquer contre les défenses de Belgique, d'Iran ou d'Égypte.
Il avait déjà participé à la Coupe du Monde 2010, ils sont deux d'ailleurs dans cette sélection à avoir joué il y a 16 ans en Afrique du Sud, on reparlera peut-être de Tommy Smith également, le défenseur, dans quelques instants. Juste, tu parlais de sa blessure Chris Wood, c'est le joueur phare, grosse blessure au genou, il y a eu de nouveau des petites alertes ces dernières semaines. Est-ce qu'on est inquiet en Nouvelle-Zélande ou on est plutôt rassuré par ces dernières sorties ?
Alors j'ai eu la chance d'être dans les boucles WhatsApp de la fédération et ça a eu très très peur de sa blessure. Heureusement, c'est l'autre genou où il s'est blessé à l'un et sa blessure était à l'autre. Donc il a pu se remettre et il a marqué la fin avril. Donc un gros ouf de soulagement que ce soit pour la fédération ou Darren pour qu'il soit apte et dans le groupe pour aller jouer au mondial.
Un petit mot maintenant d'un Frenchie. Oui, il y en a un dans cette sélection. Pour ceux qui suivent la Ligue 2 et notamment la AS Saint-Etienne, c'est le Stéphanois Ben Hold. La preuve que les Néo-Zélandais aussi, Antoine, s'exportent et peut-être de plus en plus. Il porte le maillot vert depuis 2024. Il a été repositionné d'ailleurs par Philippe Montagnier, lui qui est lié à l'origine au poste de latéral gauche. Parle-nous un petit peu de Ben Hold, son rôle, son poste avec la Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'est un joueur qui compte dans cette sélection ?
Alors c'est un joueur qui compte forcément parce qu'il joue en France, il joue en Ligue 2, donc ça fait partie des top joueurs de la sélection. Son poste, alors ça va être étonnant, mais contre le Chili, il était latéral. Là dans la liste que j'ai vue ce matin, il est mis dans les attaquants. Donc on va peut-être être surpris par son utilisation par Darren Bazley, savoir comment il va l'utiliser. Est-ce qu'il va l'utiliser plus défensivement qu'offensivement ? Donc tout reste à savoir sur les matchs amicaux avant le mondial. Mais en tout cas, oui, c'est une des références comme Chris Wood parce qu'il joue en France, il joue pour eux dans le top 5 et c'est un joueur clé de la sélection, Ben Hold.
Quels sont les autres joueurs clés justement à d'autres postes, peut-être derrière, poste de gardien de but selon toi de cette sélection ?
Alors je vais partir du fait que ceux que j'ai vus, ça va peut-être être différent par rapport au mondial parce qu'il aura son groupe au complet, mais moi j'aime beaucoup le gardien de but Alex Paulsen, même si en club il est un peu perdu, et le fameux quatuor que je cite, Bindon, Surman, Joe Bell et Staminic, qui étaient là contre le Chili qui était un match référence, même si le Chili était à 10 contre 11.
Oui, ils avaient gagné 4-1 quand même en match amical contre le Chili.
Oui, Oui, ils avaient gagné 4-1 et c'était un très bon match d'ailleurs par l'ensemble du groupe. Mais rien n'indique que cette équipe-là va rester parce qu'il a appelé Tommy Smith en disant qu'il allait peut-être pas avoir beaucoup de temps de jeu, mais en même temps il se dit qu'avec quelqu'un comme Mikael Boxall, le défenseur de Minnesota qui a plus d'une trentaine d'années, est-ce qu'il vaut pas mieux le mettre qui a de l'expérience qu'un Finn Surman ou un Tyler Biden qui est Sheffield, qui sont des jeunes joueurs d'une vingtaine d'années. Donc là, pour le coup, c'est beaucoup de mystère sur les joueurs qui seront alignés.
Tiens, en parlant de mystère, est-ce qu'il y a un joueur inconnu dont tu pourrais nous parler, nous évoquer, qui peut surprendre sur ce mondial ?
Si j'enlève ceux qui, on va dire, sont bien investis, comme Chris Wood ou Liberato Kakase qui est à Wrexham, qui a joué à Empoli aussi, ou Marco Stamenic. Moi, il y a un joueur que j'aime beaucoup, c'est Lachlan Baylis, qui a fait une très bonne saison avec Newcastle, champion de la saison régulière. Il a vraiment explosé cette année. C'est un joueur qui va très probablement attirer les convoitises de par sa saison régulière. Il arrive en pleine forme mentale et physique. C'est un milieu, mais attaquant. Enfin, c'est des postes, il peut jouer sur tous les postes. Sinon, en défenseur central, il y a Finn Surman, qui joue à Portland, 22 ans, un grand défenseur d'1m90, qui peut être intéressant, mais... à voir s'il va être titulaire de par son fait d'expérience par rapport à un Mikael Boxall ou un Tommy Smith qui a déjà joué le mondial. Est-ce qu'il va être préféré? Tout va être à découvrir.
On va terminer par les objectifs réalistes de cette équipe de Nouvelle-Zélande. On va écouter le sélectionneur Darren Bazoli qui juge justement le niveau de son groupe et des forces en présence.
C'est un bon groupe avec des équipes coriaces, mais on savait tous que les matchs seraient difficiles. Nous avons une équipe de haut niveau parmi les 10 meilleurs du monde avec la Belgique, l'Iran, une très bonne équipe asiatique, et l'Égypte, qu'on connaît un peu mieux parce qu'on les a affrontés il y a quelques années. Je pense que dans l'ensemble, il aurait pu y avoir des groupes plus difficiles, mais nous savons que ce sera un gros défi.
Un gros défi, mais il y aurait pu y avoir des groupes difficiles, dit-il. Ça révèle quand même peut-être une certaine confiance. Quelle est selon toi l'ambition réaliste de la Nouvelle-Zélande sur cette Coupe du Monde ?
L'ambition réaliste est vraiment décrite, c'est on sort du groupe. C'est vraiment, donc ça va être passé par une victoire. Ce qui est positif pour eux, c'est qu'ils ont un calendrier assez bien composé où ils vont jouer la Belgique à la dernière journée. Ce qu'espère Darren, c'est vraiment de jouer la Belgique qui est déjà qualifiée, qui va faire tourner et peut-être essayer d'accrocher un point contre la Belgique, mais il va sans doute falloir faire déjà le travail contre l'Égypte et l'Iran avant, sachant que l'Égypte, ils ont perdu que 1-0 en 2024 sans Chris Wood, et c'est un match qui aurait pu être plus prolifique pour eux.
Tu les vois, toi, sortir du groupe avec possible statut peut-être de meilleur troisième ?
Ben je l'espère en tout cas, parce que j'aime beaucoup cette équipe et les joueurs qui la composent, et j'estime qu'ils ont la capacité de le faire. Donc je leur souhaite tout le bonheur.
Belgique, Iran, Égypte, on le rappelle pour le groupe de la Nouvelle-Zélande. Dernière petite question Antoine sur l'engouement qui peut exister en Nouvelle-Zélande autour de cette sélection, là où les All Blacks et le rugby sont rois. Est-ce que les Néo-Zélandais suivent cette Coupe du Monde et ont une certaine affection pour cette équipe ?
Oui, ils ont une grosse affection parce que c'est si peu qu'ils ont pu participer à un mondial, même s'ils vont pouvoir participer plus tard cette fois-ci, ça y est, c'est pour eux. Ils ont un bénéfice sur le décalage horaire puisque les matchs seront en plein après-midi. Mais le foot est aussi un sport qui est très disputé là-bas. C'est le quatrième sport national en termes de participation. Et par exemple, des régions comme Wellington, qui n'a pas d'équipe de rugby, est très, très, très foot. Ça va être la fête, et j'espère pour eux qu'ils gagneront au moins une qu'ils auront au moins une victoire, et sortir être meilleur troisième, ce serait quelque chose d'extraordinaire pour eux.
Et on va suivre également cette équipe de Nouvelle-Zélande sur RMC. Merci beaucoup Antoine.
Merci à vous.
Antoine Blanchet-Quérin de Lucarne Opposée qui nous a présenté de manière très exhaustive cette sélection néo-zélandaise. After Coupe du Monde à retrouver sur l'appli RMC sur toutes les plateformes. Vous partagez, vous likez et vous commentez. Puis vous n'hésitez pas à écouter à tous les autres épisodes qui présentent les équipes pour être fin prêt le 11 juin prochain pour le coup d'envoi de la compétition. Très bonne Coupe du Monde à tous. Bye bye.
RMC After Coupe du Monde, les 48 équipes.